Alors, bon, après, il critique les hérétiques, il exhorte à l'unité. Et pour Cyprien, eh bien, qui est le garant de l'unité? C'est l'évêque. Ce sont les évêques qui garantissent l'unité de l'Église. Et donc, il faut refuser la validité de tout acte posé par un évêque illégitime, c'est-à-dire un évêque qui n'est pas en communion avec les autres évêques et donc qui n'est pas en communion avec le siège de Rome. Donc on a, avec Tertullien, la première affirmation, on pourrait dire, de l'Église comme communion d'Église.
Non, c'est pas Tertullien, c'est
Cyprien, oui. Cyprien. Alors Cyprien nous a laissé aussi une abondante correspondance. On a 81 lettres de lui, enfin 81 lettres, dont 59 de lui, d'autres qui sont des lettres qu'il a reçues.
Oui, mais alors l'unité dans quel ordre? Parce que dans l'histoire de l'Église, il y a des cas où les évêques se défoussent par rapport au pape, enfin, je veux dire, c'est.
Oui, alors là, on est encore
C'est pas dans quel
dans une communion qui n'est pas hiérarchique vraiment. C'est une communion, voilà, à travers les lettres de communion que les évêques s'échangent, et donc où ils manifestent leur unité les uns avec les autres. Et le critère nouveau, c'est, mais qui est déjà ancien, parce qu'on voit comment Irénée, par exemple, va, quand il veut citer des généalogies d'évêques, il lui dit, il suffira de citer l'évêque qui préside l'Église qui préside à la charité et qui est Rome. Voilà. Et donc, ce qui devient important, c'est que il suffit pas d'être en communion avec l'évêque d'à côté ou l'évêque encore d'à côté. Il faut que cela aussi soit en communion avec l'évêque de Rome. Et ça va devenir crucial au moment où les schismes vont se développer et où il y aura de plus en plus d'évêques schismatiques. Par exemple, à l'époque donatiste, à l'époque du schisme de Dona, à l'époque de Saint-Augustin, 4e siècle, eh bien, il y a presque autant d'évêques schismatiques en Afrique que d'évêques orthodoxes. Mais le critère, bah, c'est l'unité avec la communion avec l'évêque de Rome. Alors du coup, les donatistes pas bêtes, ils vont créer un siège à Rome, alors qu'ils n'ont pas de. Et ils vont dire, bah, nous aussi, on a l'évêque de Rome. Oui, mais alors là, on leur renvoie à la figure l'article de Tertullien, là, en disant, oui, mais votre évêque de Rome, il est là depuis. Il ne remonte
Trois
pas
jours.
à Saint-Pierre. Hein.
Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment de là que commence l'idée de la primauté du siège de Pierre? C'est quand c'est plus ancien?
En fait, ça tient pas au pouvoir d'enseignement, je ne sais quoi. Ça tient tout simplement au fait que l'apôtre, qui est le chef du collège, a versé son sang à Rome. Et c'est juste là, même si l'évêque est médiocre, enfin si le pape est insignifiant, comme il y en a énormément à cette époque, eh bien ce qui compte, c'est qu'il soit le successeur de Saint-Pierre.
C'est-à-dire que Saint-Pierre aurait versé son sang, c'est quand même Saint-Pierre, c'est quand même il aurait versé son sang à Antioche,
Ce serait le primat serait à Antioche.
Ah oui, sûrement.
Entre guillemets.
Oui,
Mais c'est pas
certainement. Oui.
Le lieu, c'est le lieu qui est important.
Voilà, et c'est le lieu à cause de la personne.
Oui, à cause de
Voilà.
Pierre.
Oui, c'est à cause
quand il y a eu trois papes élus au Moyen-Âge, enfin, ils n'étaient pas élus à Rome différemment, donc je crois pas.
Oui, mais du
On a
coup,
le
mais ils étaient dans la
conscience.
succession de l'évêque de Rome, même si Rome n'était plus dans Rome, pour le coup. Regardez, Pie VII, il a été élu à Venise, et puis on a les papes d'Avignon, etc. Mais le fait qu'il soit successeur de l'évêque de Rome, c'est-à-dire il faisait remonter leur généalogie disons, à Saint-Pierre. Alors.
La généalogie, si je puis dire, des évêques. Elle est pour vous. Ça va, les manuscrits, les.
Bah, on a des traces dans. Bah, comme je vous disais, dans Saint-Irénée, il cite les 12 premiers évêques de Rome. Et c'est comme ça qu'on les connaît. Après, c'est repris par. Tout ça est repris par Eusèbe de Césarée ou par des historiens de l'Antiquité. Alors, Par contre, pour d'autres églises, on sait très peu de choses. Hein. C'est clair que la plupart des apôtres, on ne sait pas qui a été leur successeur. Hein.
Donc, ils ne gardaient pas quand même cette
Bah, ça s'est beaucoup perdu. Si, si, mais ça s'est perdu. Regardez, qu'est-ce qui reste d'Éphèse, qu'est-ce qui reste de oui. toutes ces villes d'Asie mineure où toute la présence chrétienne a disparu. Donc, enfin, il y a beaucoup de documents qui ont dû être perdus. Alors, en tout cas... voilà, comme dit encore Cyprien, l'Église ne peut être schismatique. Une Église ne peut être schismatique, elle se défait ou elle s'autodétruit si elle est schismatique. Il dit le rayon ne peut pas subsister sans le soleil. L'Église repose sur l'évêque. L'Église est dans l'évêque comme l'évêque est dans l'Église. Dans la lettre 68, 66. Et ça, en fait, on voit que pour Cyprien, le personnage le plus important, c'est vraiment l'évêque. Et il joue son rôle d'évêque, d'ailleurs. Il convoque des synodes pour que les évêques agissent de concert en s'étant troublés. Donc il faut que l'unité soit visible. Unité aussi avec Rome, donc il va soutenir le pape Corneille dans un conflit qu'il a avec justement le prêtre Novatien. Et il y a aussi un schisme à Rome. Et comme Tertullien, qu'il appelle le maître, il l'appelle Magister Noster, il l'appelle le maître. Il aborde les choses de la vie quotidienne de son diocèse et puis des diocèses voisins, qu'il traite cependant d'une manière un peu moins polémique que Tertullien. Mais enfin, il a aussi des pages, par exemple, sur les maquillages, tous ces trucs-là, les spectacles. Alors, il connaîtra un conflit avec le successeur de Corneille, justement, à Rome, à propos du baptême des hérétiques. Parce que là, pour le coup, Cyprien était partisan de les rebaptiser, quand même. Le concile de Carthage, le premier concile de Carthage, en 256, va prendre le parti de Cyprien, c'est-à-dire rebaptiser les hérétiques. Alors, et là, on voit quand même que Rome ne se trompe pas, hein, parce que Rome... dira, ben non, il ne faut pas rebaptiser les hérétiques. Le baptême imprime un sceau qui est... et Dieu sait si le pape Étienne, à l'époque, avait beaucoup moins de personnalité que Cyprien. Alors, tout ça ne dure pas très longtemps, puisqu'en 258, la persécution reprend avec Valérien. Et le pénible incident opposant... le pape de Rome et patriarche de Carthage va se résoudre par le fait que tous les deux sont martyrisés, l'un en 257 et l'autre en 258. Et cette fois-ci, Cyprien, qui a bien préparé son église, accepte le martyr par solidarité avec sa communauté. Et, or, il était de famille sénatoriale. Et du coup, on a gardé les actes de son martyr, qui sont assez impressionnants. Il faudrait que je les donne la prochaine fois.
Il était martyrisé où exactement ?
Carthage. Et on raconte que la persécution de Tertullien, c'est une persécution surtout contre le clergé. Parce que les empereurs avaient compris qu'en fait, la communauté chrétienne, elle tient par son clergé. Et donc le but c'était de liquider le clergé et en même temps de liquider les livres. Pas de livres, plus de liturgie, plus d'écriture sainte, plus de règles de foi, etc. Donc après tout reste dans la mémoire, mais la mémoire est souvent défaillante quand même. Et donc c'est là où il y aura tous ceux qui livreront les livres, les traditores, hein, tradores c'est livrer. Et qui vont encore rajouter, parce qu'à chaque fois il y a des nouveaux lapsis, et ce qui fait qu'à la fin on aura donc une église officielle remplie de pêcheurs et une église hérétique remplie d'orgueilleux résistants. Voilà, donc vous voyez, pas très simple.
Comment l'église officielle est remplie de
pêcheurs? C'est-à-dire que les évêques en général ont le sens pastoral, vous voyez. Donc, ils réintègrent les lapsis.
D'accord.
Et alors que les autres sont plutôt orgueilleux, donc ils forment leur petite secte entre eux, leur petite chapelle de pur, en somme.
Et comment ont-ils pu survivre puisque ils auraient dû être
tués? Oui, mais comme les moyens étaient quand même limités à l'époque. Ils n'arrivaient pas à... Parce que l'Afrique du Nord était quand même très chrétienne. Donc la police impériale n'arrivait pas à tous les tuer. Et puis je vous dis, en plus, elle visait surtout beaucoup les chefs des communautés. Alors finalement, Rome imposera sa solution. Et là, ça sera justement le conflit donatiste. Et les donatistes, refusera de ne pas rebaptiser les lapsis. Et du coup, il fondera son église, lui, il rebaptisera.
C'est son unique hérésie, Athanasie, il a vu une autre.
Oui, alors...
C'est sur les lapsis ou les hérétiques?
Non, sur les lapsis. Sur les lapsis.
C'est une hérésie d'un athéiste ou il y en a d'autres?
Non, c'est plutôt un schisme. C'est plutôt un schisme. Mais vous savez, les schismes finissent toujours en hérésie parce que on finit toujours à un moment ou à un autre par avoir par faire un choix dans la tradition, dans les écritures, dans la théologie. Et en fait, finalement, comme on n'est plus en communion avec les autres, on vit un développement séparé. Donc normalement, le schisme aboutit à l'hérésie. C'est le mouvement un petit peu logique. Et alors, le Hans von Campenhausen, qui est un patrologue allemand, dit « Le biblicisme raisonnable et le palpable moralisme joint au caractère fortement ecclésial de ses écrits, répondait visiblement à ce que la chrétienté latine de son temps regardait comme capable d'édifier et comme authentiquement chrétien. De son loyalisme plein de foi, Cyprien incarne la discipline de l'Église. Dans son inébranlable fidélité hiérarchique, il est le prototype de l'évêque indépendant des premiers temps du catholicisme. Il représente, peut-on dire, le grave fonctionnaire romain devenu chrétien, qui, ayant approuvé et reçu le message du salut sans chercher de complications et sans poser de problèmes, entend remplir désormais droitement et sans restriction son devoir d'homme dans la communauté ecclésiale. Vous voyez, fonctionnaire romain, il devient fonctionnaire ecclésial. Comme saint Ambroise d'ailleurs. C'est-à-dire avec la même gravité, le même sérieux et le même pragmatisme de juriste romain. On n'entre pas dans toutes les trucs compliqués, les discussions, etc. Mais on gouverne. Donc voilà. Donc on peut dire saint Cyprien, donc de famille, comme je vous dis... sénatorial, de haut fonctionnaire de l'Empire, est typiquement le prototype de ces grands évêques qu'on aura dans l'Empire devenu chrétien, qui au moment où l'Empire devenu chrétien commencera à tomber en ruine, parce qu'ils auront été des hauts fonctionnaires, souvent convertis, etc., ou qui avaient cette tradition de fonctions publiques dans leur famille, seront à même de gouverner des cités ou des provinces tombées un peu en abandonnées, quoi. Alors, faudrait que je... Oui. Sauf quand ils se cachaient. Et on va s'arrêter là. Et puis la prochaine fois, je vous lirai le... Je vous passerai des passages du De Unitate Ecclesiae. et puis aussi du et puis de son martyr. Ah mais pas de son martyr, j'ai d'autres sections où je parle des martyrs. Ah ben oui, c'est juste après. Voilà. Les actes de Cyprien, on étudiera ça la fois prochaine.